Nous sommes à notre cinquième cours sur le Chol Tzitzit, dans le Ben Yishraï, à l'énéa 11 de Parashat Noach. Donc le Rav nous dit ici, je vous amène ici mon talit pour qu'on voie un peu, que quand on a la longueur des fils se calcule depuis l'endroit où sortent les fils de l'habit. Pas depuis le nœud, pas depuis le début du fil sans les nœuds, mais depuis l'endroit où on a ici le fil qui sort du territoire de l'habit. Là, il faut qu'il y ait au moins 24 cm, si possible, 29 cm. On peut plus, on ne peut pas moins. Si après, ça a raccourci la lessive, si après, des fils se sont coupés, etc., ça va. Mais lors de la fabrication du talit, il faut qu'il y ait au moins ces 24 cm. On a l'alinéa 13, il nous dit le Rav, que ces 12 pouces, donc 24 cm, on va les partager en deux. 8 cm de nœud et 16 cm de fil. Un tiers, deux tiers. Si on fait plus long, quelqu'un il aura un tzitzit de 30 cm, il fera 10 cm de nœud pour 20 cm de fil. Il a un fil qui fait 60 cm, il fera 20 cm de nœud et 40 cm de fil. Toujours faire un tiers, deux tiers, c'est pas obligatoire, si on n'a pas fait le talit, il est kasher, mais c'est mieux ainsi. Ensuite, le Rav, on a l'alinéa 14, témoin de Rabbi Hanvit Alev de Rabbeinu Ari, que son maître faisait des petits nœuds ici au bout des fils, chose que je n'ai pas fait, mais que je fais maintenant devant vous. Donc on prend comme cela, et hop, on fait un petit nœud, et voilà, à quoi ça sert. Avec le temps, bon, les fils ici sont de très bonne qualité, ce n'est pas comme à l'époque, les fils, au bout d'un moment, ils s'ouvrent, d'accord. Alors quand ils s'ouvrent complètement, c'est un peu embêtant. Alors si on fait un petit nœud ici, comme ça, en haut, ça empêche que ça s'ouvre plus. Ce n'est pas obligatoire, c'est bien. À l'alinéa 15, le Rav ici témoigne que Rabbi Chaim Vital faisait, donc Rabbi Chaim Vital, c'est l'auteur de toute la Kabbalah, celui qui a écrit tout ça au nom de son maître, le Rabbi Noari, faisait un trou. Il y a ici un trou dans le Talit Katan. Dans certains, il y en a deux. Rabbi Noari, qui était Ashkenaz, on l'appelait Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Il était d'origine Ashkenaz. Tous ceux qui s'appellent Ashkenazi sont Ashkenaz. Ils sont arrivés dans les pays orientaux, on leur a dit, ah, toi, t'es Ashkenazi. Donc, c'est resté le nom Ashkenazi. D'accord? Mais il est venu Sfarad. Mais à la base, il était Ashkenaz. Alors lui, il a reçu dans son éducation qu'on faisait deux trous. Donc il y en a qui ont deux trous et ils font rentrer le fil, ils font ressortir du même côté et comme ça, le fil y sort. Mais Rabbi Hamita lui-même, déjà qui était Sfarad, dans tous ses talitot, Katan et Gadol, mettait un trou. Donc nous, aussi, la coutume comme ça, on met un trou. Alinéa 16. Il n'est pas bien de laisser un talit non plié. C'est pas kavod. Shabbat, par exemple, il y en a qui n'aiment pas, qui croient que c'est un problème à Shabbat de plier le talit. C'est faux, il n'y a pas de problème de plier le talit. Si possible, on ne pliera pas sur ses plis. Mais même si on l'a fait, ce n'est pas grave. C'est mieux de le plier que de laisser non plié. C'est un manque de kavod, un manque de respect pour le talit de laisser non plié. Donc on le pliera même sur les plis, si possible, pas sur les plis. Si quelqu'un a laissé son talit non plié et une nuit entière est passée, le Rav nous dit ici qu'il faut le matin secouer le talit. Pourquoi ? Parce qu'il y a des forces négatives qui sont un peu attachées et quand on fait comme ça, hein, elles partent. D'accord ? Donc on secoue le talit, après, s'il a passé une nuit entière non pliée, et après cela, on le plie ou on le met. Le Rav nous dit aussi qu'il n'est pas bien que ce soit quelqu'un d'autre que nous-mêmes qui plie le talit. Il dit que c'est caché la mazal, c'est pas bien pour notre mazal. Donc c'est nous-mêmes, il dit que les personnes riches qui ont un serviteur qui vient avec eux à la prière pour plier leur talit, alors qu'ils ne plient pas le talit, que ce soit pas le serviteur, mais la personne elle-même qui plie son talit. Quand ça nous arrive à nous que quelqu'un d'autre plie le talit, c'est très rare. Il y a une seule fois, ce que je connais dans la vie, et d'habitude je dis à ceux aux personnes concernées, c'est au mariage. Au mariage, tu plies un nouveau talit, il fait chez Riano pour rendre quitte la Kala, on lui met le talit au-dessus de la tête, on fait la roupa, et il casse le verre, et hop, on se met à danser, et le talit disparaît où ? Ben, il disparaît, quelqu'un le prend, et hop, il le plie pour lui. Alors, il me semble, ce n'est pas écrit ici clairement, le rabbi dit que ce ne soit pas bien quelqu'un d'autre que lui plie le talit, c'est caché la mazal. Là où le jour où on le souhaite un mazal tov, je pense aussi que c'est préférable que ce soit le Khatan lui-même qui plie le talit. Donc quelqu'un prendra le talit, parce qu'il n'a pas le temps maintenant de plier le Khatan, il est un peu sans dessus dessous, d'accord. Donc quelqu'un, son frère, un oncle, quelqu'un de proche, son copain, prendra le talit, attendra qu'il y ait une petite demi-heure de danse qui finit, après il leur dit, tiens, plie ton talit, et le pliera. C'est pas écrit dans Ben Ishra, c'est moi qui pense ainsi que c'est valable aussi. Je vois pas qu'il y ait une différence entre le matin après ta prière et entre le jour du mariage. Peut-être qu'il y en a une. S'il y en a une, ce que je dis n'est pas valable. Mais vu que personne n'en parle, peut-être ça vaut la peine. Donc, c'est de cacher la mazal. C'est dit pour le mazal que c'est un jour où on veut, au contraire, qu'il y ait un bon mazal, compris, complice soi-même le talit. Quand on enlève le talit, nous dit le Rav, il est bien de l'enlever avec la main gauche. La main gauche, la main qui est mal habile, pour montrer que c'est dur pour nous de nous en séparer. Idem pour le tefillin. Pour le tefillin du bras, qu'on met sur la main gauche, c'est un peu dur de l'enlever avec la main gauche, d'accord ? Parce qu'il est sur le propre bras. Alors on peut l'enlever un peu comme ça, les lanières. La dernière partie, on doit bien l'enlever avec la main droite. Mais par exemple, le tefillin de tête, on l'enlève avec la main gauche, pas avec la main droite, pour montrer que c'est dur pour nous de nous séparer du tefillin ou du talit. Évidemment, celui qui est gaucher, ben, il fera avec la main droite. Évidemment. D'habitude, celui qui est gaucher, il fera les choses avec la main droite du monde. Ça veut dire, lui, sa gauche, c'est en fait sa droite, et sa droite, c'est sa gauche. Alors, dans un cas comme j'ai ici, on veut montrer que c'est dur pour nous, il fera avec la main qui est mal habile, c'est sa main droite. Mais autre chose qu'on fait avec la main droite d'habitude, par exemple, tenir le verre du kiddush, ou le loulav, d'accord, ou qu'est-ce qu'on a encore Pardon ? Le schéma, il n'y a pas d'importance sur la main droite. C'est une coutume, d'accord ? C'est pas. Je crois qu'il peut faire avec la main gauche, il n'y a pas de problème. C'est une bracha, d'accord ? Quand il prend une bracha, c'est bien de prendre la main droite et pas la main gauche. On avait même l'autre jour pour le talit, prendre la main droite. Alors là, il fera avec la main droite, parce que le fait de donner la priorité à la main droite, ça correspond au monde supérieur. Et dans le monde supérieur, la droite, elle est droite et la gauche, elle est gauche, même pour un gaucher, d'accord ? C'est pas à l'envers. Donc il fera avec la main droite qui est. Pour lui, la main qui est mal habile. Mais pour les choses où on veut maintenant montrer que c'est dur pour nous de nous séparer, il fera avec la main mal habile. D'accord ? Dernier article, alinéa de Parashat Noach du Ben Ishraï. Le Rav nous dit qu'il est bien de regarder le tzitzit, c'est marqué Orit Emoto, vous les verrez, et il est bien d'imaginer dans notre pensée le fil azur. Le fil azur, c'est en fait le fil qui fait le tour. D'accord ? Donc, bien qu'il est blanc, on l'imagine en très nette, en couleur azur, parce qu'il dit que bien qu'on ne sait plus quelle est la couleur azur, néanmoins, la lumière spirituelle correspondante n'a pas disparu. Donc, on l'imagine et c'est comme si c'est là, au moins dans les mondes spirituels. Oui ?
On le fait directement. Moi, par exemple, il y a un fil bleu. C'est pas le vrai des relettes, mais... Pour aider à nous rappeler.
Alors, j'en ai parlé la dernière fois. Alors, M. Bachelot lui dit que c'est mieux de ne pas mettre cela. D'abord, on n'est pas certain. Et tu me diras, c'est pas grave. Il dit, ça se peut, parce que dans le Talmud, c'est marqué une certaine malédiction pour celui qui met une couleur apparente à celle originale, très laite, qui était assez chère. Et il dit qu'il met la bonne couleur. D'accord ? Vu que ce n'est pas la bonne couleur, que peut-être on ne met pas la bonne couleur, c'est comme si on fait partie de ces gens-là qui un peu roulaient les gens en disant « Regarde, j'ai aussi cette couleur. » Deuxièmement, la raison principale, il dit, on voit que les grands de la Torah, ceux de notre génération et ceux des générations passées, n'ont pas porté cette couleur-là. Qui sommes-nous insolents d'aller dire « Regardez, moi je fais mieux que vous. » Donc il dit que c'est mieux pas. Dans celui qui le fait, alors, il n'est pas blâmable. Mais c'est préférable. Si quelqu'un me pose la question, on dira que c'est mieux de ne pas le mettre. Et comme ça, nous faisons, tu vois, que je ne le porte pas. Et si c'était bien de le porter, je l'aurais porté aussi. Mais je me dis, le Rav Yashiv, il n'a pas porté. Le Rav Yashiv, il n'a pas porté. Moi, je commence à porter un truc bleu. Qu'est-ce qui se passe ? D'accord ? Donc, on ne sait pas le souci. On sera au paradis avec eux. Dans ta chambre, tu comprends. Personne ne va en enfer. Si on peut porter le bleu très lait. Ok, on passe par Parashat Lech Lecha, Alinéa 1 du Ben Ishraï. Le Rav nous dit, alors tout simplement, il nous dit comment on va faire le. Pour ça que j'ai amené sur le talit aujourd'hui, vous montrer comment on fait les fils. Quel est l'ordre des nœuds. Il y a deux ordres possibles. Les deux sont bons. Le préférable, celui-là que j'ai fait ici, d'après la Kabbalah, d'après le Ben Ishraï, ainsi écrit aussi le Rabbi Yosef et tous les Rabbanim Sfaradim, les grands Rabbanim Sfaradim. On prend les quatre fils, on dit les Shem Mitzvah Tzitzit. je mets maintenant ces fils-là dans le talit, l'échem mitzvah tzitzit. Pour la mitzvah tzitzit, on n'a pas dit ça, c'est un problème. D'après Ben Ishraï, ce n'est pas valable. D'après le Rav Yosef, c'est valable. Au moins, si on l'a pensé. Si on n'a rien pensé, c'est un problème. D'accord ? Donc, il faut dire. C'est pour ça qu'il faut, on prendra aussi quelqu'un, ou soi-même on le fera, ou on prendra quelqu'un qui est Rachar, qui a la crainte du ciel, et qui sait comment on le fait, et il mettra, il dira, je mets maintenant les fils, les chèmes, mitzvah, tzitzit, et il les met. Il faut que ce soit une personne qui soit Yerei Shamayim. C'est un problème, d'accord ? Il faut vérifier. Lui demander, tu as pensé, tu as dit le Shem Tzitzit, Shem Tzitzit ou pas ? Alors on aura maintenant 4 fils qui pendent des deux côtés, ça fait 8. Et on fait un premier double nœud, le voici ici. Double nœud. Après, on fait 7 tours. On prend le fil, il y a toujours un fil plus long parmi les 8. On fait 7 tours avec. Plus 2. Après, on refait un double nœud. Après 8 tours, un double nœud. Après 11 tours, un double nœud. Et après 13 tours, un double nœud. 7, 8, 11 et 13, ça fait en tout 39. 39 valeurs numériques, Hachem, Echad, Dieu est 1. Oui, 7, 8, 11, 13.
Les tours, c'est pas des tours comme ça ?
On va expliquer tout de suite. Il y a une autre façon de faire qui est Yulke Vavke. Comme la valeur numérique des 4 tas du nom de Dieu, 10, Yud c'est 10, Hey c'est 5, Vav c'est 6, Hey c'est 5. 10, 5, 6, 5. L'heure numérique, Yud Ke Vav Ke. C'est valable aussi. C'est préférable si quelqu'un, ça lui est égal, qu'il fasse des 39 que les 26. Maintenant. Pardon ?
J'ai 26, c'est le numéro d'Hachem.
C'est ce que j'ai dit. 26 Hachem, et c'est mieux 39 Hachem Echad. Echad 1, c'est en valeur numérique 13. 26, 13, ça fait 39. Hachem Echad. Maintenant, il est bien. Pas obligatoire, mais il est bien. Que donc ces 39 tours ou 26 tours, on entoure donc avec un fil, le fil long, on entoure les 7 autres fils, on le fasse en groupe de 3. Le premier groupe, on avait entre les deux doubles nœuds, on a 5 doubles nœuds, ce qui fait 4 espaces. Dans chaque espace, on mettra 7, une fois 7, après 8, 11 et 13. Alors le premier espace, le voici. J'ai mis ici 7 tours. Et 7 tours, comment j'ai fait ? Je fais 3, vous voyez, il y a 3, un espace, 3 et 1. Ça fait 7. 3, petit espace, 3, petit espace, 1. Après, je fais un double nœud. Deuxième espace entre les deux doubles nœuds, je dois faire 8. Alors, comment je fais ? J'avais 1 dans la première série, maintenant je fais 2 pour que ça fasse 3. 1, double nœud, 2 dans le deuxième groupe, 2. 3 et 3. Comment ça fait 2, 3 et 3 ? Ça fait 8. Donc j'ai fait ici 2 fils qui tournent, après petit espace, 3 fils qui tournent, de nouveau petit espace, et de nouveau 3 fils qui tournent. 8. Double nœud. Tu suis ? Double nœud. Maintenant 11. Je commence à combien ? Je finis, j'avais fait 2, 3, 3, c'est les 8. Donc on va faire une série de 3. 3, 3 et 3, ça fait 9. Toujours des petits espaces entre ces groupes-là. Et là je mets 2. Les deux derniers, le dernier groupe, ça fait 2 fils, ce qui fait en tout 3, 3 et 3 et 11, et 2, ça fait 11. Double nœud, là, par quoi je commence ? J'avais 2. 1. Vu que j'avais 2 et que je veux 3, il manque 1, donc je fais 1. 2, double nœud, 1. Après 3, 3, 3, 3, 4 fois 3, ce qui fait en tout 13. Vous voyez ? Quand tu fais le fil, tu mets un petit espace comme ça, ça tient bien, c'est bon, tu vois ? Ok, double nœud, et c'est terminé.
Ça consiste en quoi, tout ça ?
Ça consiste.
Pourquoi chaque fois on doit faire un double nœud ? Parce que c'est très précis, c'est pour ça que...
Bien sûr, c'est extrêmement précis.
C'est très précis.
Bien sûr, c'est extrêmement précis. Tout ça correspond à des choses extrêmement profondes, c'est clair.
Okay. Ah, vous avez entendu une histoire, il y avait un garçon de Yeshiva qui était parti voir une fille, une professionnelle...
Shem Shmor. Ah ouais, le talit.
Ouais, le talit, il avait fauté.
Ouais.
Il s'était déshabillé.
Ouais, Fensgoula, c'est bien. Le...
Il est reparti à l'Aïcha.
Ah ouais, le talit, c'est une Sgoula de protection. D'accord ? Protection contre les Tserara, surtout le Tserara des femmes. C'est juste.
Il s'est déshabillé. Pourquoi un double nœud ? Il s'est fouetté.
C'est comme ça qu'on fait. Le talit se fait avec 5 double nœuds. Le tzitzit, d'accord. D'ailleurs, tzitzit est valeur numérique. On avait déjà dit tzitzit, valeur numérique. 600, tzitzit, plus 5 nœuds, plus 8 fils, ça fait en tout 613. Comme ça, on se regardera, on se souviendra des 613 mitzvot. Donc, il faut qu'il y ait 5 doubles nœuds. Un nœud, c'est un double nœud. Un nœud tout seul, pas double nœud, c'est pas un nœud. Ça tient pas, il faut que ça tienne. Ce qu'on appelle, nous, un double nœud, la Torah appelle un nœud. Donc, on fait un double nœud, ça veut dire un nœud. On en fait 5, 5 nœuds, et entre, on met les fils, comme j'ai dit, ou 26 ou 39. La personne qui fera cela, comme je dis, doit le faire l'Hachem mitzvah tzitzit. Pour la mitzvah, en pensant faire la mitzvah de tzitzit. Il faut le dire. Alors, Rabbi Yosef dit bediaval, si on l'a pensé, a posteriori, si on l'a pensé, c'est valable aussi. Il faut que ce soit impérativement un homme juif qui a au moins 13 ans, majorité religieuse. Bediaval, si c'est une femme qui l'a fait, ça va. Mais mieux vaut pas. A priori, c'est un homme juif qui a 13 ans et un jour. Majorité religieuse, qui est bar mitzvah. Le Rav dit ici, si quelqu'un il porte un talit et il y a un doute, il ne sait pas si quand on a mis les fils dedans, on a dit l'Hachem mitzvah tzitzit. Au moins, on l'a pensé. Alors, il y a un doute si maintenant ce talit est caché ou pas. Il dit, le mieux, alors c'est tout de suite enlever les fils et les remettre comme il faut bien. Si c'est Shabbat, on ne peut pas le faire. On n'a pas d'autre talit katan. Qu'est-ce qu'on fait? On le met, on ne le met pas. Il dit, on le met. Sans faire la bracha, exactement. Et dès que Shabbat est sorti, on enlève les fils et on les met de nouveau en pensant et en disant l'Hachem mitzvah tzitzit.
Vous avez dit, bon, il ne faut pas faire les nœuds Shabbat. Mais des fois, les nœuds, ils se desserrent. C'est les doubles nœuds au bout. Ils se desserrent.
Ouais. Alors, c'est une très, très bonne question. Regardez ici le double nœud. Il est un peu desserré. Vous voyez ici, le fil, il sort un peu comme ça. Alors, quand on veut refaire, on dit l'Hachem mitzvah tzitzit et on le tire. Ce que je fais là maintenant, comme ça, tac, je tire. Même le tir, parce qu'il y a un fil là qu'il faut remettre mieux. Voilà. Quelqu'un qui fait ça Shabbat, du temple, on le lapidait. D'accord? C'est un issur d'oraita de Shabbat comme allumer du feu.
Il est
quand
même caché
au talit? Le talit est caché. Le talit est caché. Fait
la bracha.
Mais maintenant, c'est un yetzera. Tu es en train de prier et tu vois pendant Shabbat que le fil, surtout quand le talit est nouveau, il se défait. Tu tires, si tu tires un tout petit peu et le nœud n'est pas fait, tu tires un peu, c'est rien. Mais quand tu as fermé le nœud, même un tout petit peu, tu tires, tac, ça s'appelle faire un nœud Shabbat, c'est un des 39 travaux qu'il y a à Shabbat. Comme faire du feu, comme... Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Aucun problème.
C'était pas péché pour
eux
de lapider.
C'est pas qu'on prend quelqu'un, on le sort dehors, djihad, et on le lapide. C'était s'il y avait deux témoins qui l'ont averti, qui ont dit, si tu fais ça... transgresse l'interdiction de faire un nœud Shabbat et tu seras lapidé. Il dit, je sais, j'en ai rien à faire. Et directement, dans le temps, avant que passe le temps de dire Shalom el Harabi, sept syllabes, il faisait cela. Il dit, je sais que c'est interdit, j'en ai rien à faire. Tac, il y avait deux témoins cachers. Si les deux témoins cachers venaient au Bédine et l'accusaient, le Sanhedrin de 23 personnes, 23 juges, qui pouvaient juger que lorsqu'ils étaient au temple, d'accord, jugeait et pouvait le condamner à mort, devait le condamner à mort. Donc, il faisait tout pour ne pas le condamner à mort. Mais s'il n'y avait pas le choix, on condamnait à mort et il y avait la peine capitale.
Mais s'il faisait plus que le...
Maintenant, il est écrit dans la Mishnah de Sanhedrin qu'un Sanhedrin qui promulguait une peine capitale une fois tous les 70 ans était appelé un Sanhedrin meurtrier. Et il faisait tout pour ne pas tuer. Prends par exemple aux States, d'accord, en Amérique, combien de peines capitales ils ont eu les 50 dernières années? Je crois 2100. Chasse électrique, etc. Donc, les Juifs d'il y a 2000 ans étaient beaucoup plus cool que les Américains aujourd'hui. C'est des vrais meurtriers, les Américains, tu comprends? Donc, quand on dit peine capitale, les gens sont horrifiés. Ben, ça, c'est encore aujourd'hui, personne ne dit rien, d'accord? Et qui me dit que lapidation, c'est pire que chasse électrique? C'est quoi lapidation? On le prenait au deuxième étage, on jetait. Voilà, il mourait en tombant. C'est peut-être plus meilleur maintenant. Il y avait quatre sortes de morts.
Mais c'est sûr que c'est pour eux de tuer quelqu'un.
Non, c'est la Torah qui ordonne. La Torah ordonne. Il y a quatre types de morts que la Torah ordonne pour les péchés graves. qui sert à quoi? C'est pas une punition, c'est une expiation. Lui, après cela, il a expié son péché, il arrive au Lamaba, il peut rentrer dans le paradis. Sinon, il reste bloqué avec son péché grave ici. Il y a beaucoup de péchés qui sont sanctionnés par la mort du Bedin. Le plus grave, ce qu'il a, d'accord, lapidation, c'est Shabbat, homosexualité, frapper son père, si je me souviens bien, frapper son père, de façon de, on le blesse. Qu'est-ce qu'il y a? Avodazara, donc idolâtrie. Ok, ça c'est, après, qu'est-ce qu'on a? La Serefa, brûlée. Brûler, c'est relation avec sa propre fille. Brûler, ce qu'il a fait à Hereg. Hereg, c'est tuer quelqu'un, assassinat. Chenek, adultère. Et encore beaucoup, il y a plusieurs, encore beaucoup d'autres péchés qui sont fonctionnés par cela. On revient maintenant au Ilchot Tzitzit.
On a dit que c'est pas bien de mettre le taïd sur la tête. Enfin, c'est que pour les mariés, non?
Aucun problème. Au contraire, c'est bien. Ça me donnerait de chamaïm. Oui, aucun problème. Ok, il faudra faire attention de ne pas couper quelqu'un qui veut maintenant changer les tzitzit. Son tzitzit commence à vieillir. Des fois, au bout d'un moment, sur le tadi katan qu'on porte sur nous, qui est en contact sans cesse avec nos jambes ou notre corps, d'accord, au bout d'un moment, ça s'use. Si un des fils ici, il est coupé, et ça sous au bout d'un moment, il faut vérifier, le talit il n'est pas sous, il n'est plus valable. D'accord? Donc on change. Donc il faut maintenant couper les fils. Comment on les coupe? C'est pas bien de couper avec du métal, avec des ciseaux, ou donc, le Rav nous conseille ici avec les dents. Donc avec les dents, pas les quatre à la fois, parce que tu vas t'enlever les dents, un à un, tac, tu comme ça, et tu les enlèves. Et aujourd'hui, ceux qui travaillent dans ce métier-là de faire les fils, etc., ils utilisent des ciseaux en céramique. C'est valable, c'est pas du métal, ça coupe aussi bien que le métal, et c'est en céramique. Donc, ou avec les dents, ou avec un ciseau en céramique.
Avec les mains, on les arrache.
Comment avec les mains? Comment tu vas
Je les arrache, je les arrache.
Pas ceux-là, c'est les petits que tu as, toi, mais les gros comme ça, avec les mains, c'est la main qui va se déchirer.
Même avec les dents.
Avec les dents, je crois qu'on peut, ouais. Bon, il faut... Ok, le talit qui a été emprunté. Le talit doit nous appartenir. Si je reçois un talit qui n'est pas le mien, je n'ai pas le droit de faire la bracha dessus parce que je ne fais pas la mitzvah. La mitzvah n'est faite qu'avec mon propre talit. Alors si maintenant j'emprunte un talit à quelqu'un, alors le mieux est que ce quelqu'un dise, je te donne un cadeau, il est à toi. Pas que je le prête, il est à moi, mais je te le prête. Je te le donne à toi, il devient ta propriété. Le type, vu qu'on est des gens sérieux, quelqu'un qui me donne son talit, je lui dis merci beaucoup et je le garde. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit c'est matana, amanat l'arzir. C'est un cadeau qui sera effectif qu'à condition qu'ensuite tu me le rendes. S'il me le rend après, rétroactivement, quand il l'a porté, c'était à lui. S'il ne me le rend pas, ça n'a jamais été à lui. Ça devient ta propriété à condition que tu me le rendes.
Oui. C'est comme le loulav.
Comme le loulav, exactement. Le premier jour aussi, les quatre espèces de Sukkot doivent nous appartenir. Alors, quelqu'un maintenant veut faire. Je vais utiliser mon loulav et mes quatre espèces pour les secouer. Je lui dis, je donne matam et l'arzir. Ça devient sa propriété, un cadeau, à condition que tu me le rendes.
Tu as la
chose, là. Alors, j'y arrive. Donc ça, c'est en privé. Maintenant, si on emprunte à quelqu'un, même s'il n'a pas dit, je te donne maintenant un cadeau, matam et l'arzir, à condition que tu me le rendes, on considère que, vu qu'il n'a pas prêté pour faire la mitzvah, sûrement il pense ça. Bon, c'est quand même mieux, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'ignares, c'est mieux qu'il le dise. Mais si jamais il n'a pas dit, on compte sur le fait que lui me le prête dans une optique que je fasse la mitzvah, il ne me prête pas maintenant pour ce qu'il veut, parce que j'ai froid, d'accord, pour faire la mitzvah. Donc, il me donne les conditions nécessaires pour faire la mitzvah, c'est-à-dire que ce soit le mien. Donc, c'est comme s'il me l'a donné.
Donc, on fait la bracha.
On fait la bracha. Néanmoins, le Rav nous dit, c'est bien de s'éloigner d'un talit qui est emprunté. C'est pas génial. Mais si on n'a pas le choix, on prend, on fait la bracha. Le mieux, c'est de demander à la personne, dis que tu me le donnes, à condition que je le rende. Et comme ça, il dit, oui, c'est bon, et tu peux le prendre. Les talitotes qu'il y a dans les synagogues sont des anciennes talitotes que des gens ont oubliées, ou laissées, ou données à la synagogue pour que les gens les mettent. On peut les prendre et faire la bracha dessus parce que les gens qui ont donné ça, il n'y a pas de problème. Les gens qui ont oublié et qui ont laissé, Au bout d'un, on se dit comme ça, que certainement cette personne-là maintenant, si on posait la question, ton talit maintenant est à la synagogue, tu l'as oublié là-bas, tu l'as perdu, d'accord ? Est-ce que tu préfères qu'il reste là-bas, à la synagogue, et qu'il pourrisse sans que personne ne fasse rien avec d'intelligent, ou tu préfères maintenant qu'un bon juif fasse une mitzvah avec ton talit ? Il répondra, bah, je préfère, tant qu'à faire, que je ne peux pas la voir, parce que je ne sais plus où il est, je préfère que des gens fassent une mitzvah avec mon talit, comme ça j'aurai un mérite. Donc, vu qu'on considère que cette personne veut qu'on fasse la mitzvah, donc, ça va, on pense qu'il pense aussi que ça devient notre propriété pour faire la mitzvah. Si maintenant, je ne le prends pas pour faire la mitzvah, je prends maintenant un Kohen pour faire Birkat Kohanim. Un Kohen qui n'a, on va dire, un enfant qui n'a pas encore 13 ans, ou il est là par hasard, enfin, s'il a Birkat Kohanim, il n'a pas de talit, d'accord ? Tu lui prêtes maintenant ton talit pour monter pour faire Birkat Kohanim. Alors, ce n'est pas pour faire la mitzvah de Tzitzit, c'est pour être entouré pour Birkat Kohanim. Dans ce cas-là, il ne fera pas la mitzvah, il ne fera pas la bracha. Il le met, parce que vu qu'on lui a prêté, ce n'est pas clair que le type a prêté pour faire la mitzvah, parce qu'il n'a pas pris pour faire la mitzvah de porter le talit, il l'a fait simplement parce qu'il a un besoin de cacher ses mains quand on fait Birkat Kohanim, ou il a pris maintenant pour monter la Torah, pour être c'est plus kavod, c'est plus honorable de monter la Torah avec un talit. Il n'a pas fait pour la mitzvah de porter le talit. Une mitzvah de tzitzit avec les quatre coins. Il a porté pour une question de respect, honorable. Dans cette mesure-là, il ne fera pas la bracha dessus quand c'est emprunté. Ensuite, si c'est... Ça, c'est le cas d'un talit ou que quelqu'un me donne, ou ceux qui sont déjà laissés à la synagogue exprès pour le public. Si maintenant quelqu'un, il a laissé son talit à la synagogue, mais ça lui appartient dans son casier, d'accord ? Maintenant, moi, je viens, je n'ai pas de talit. Vient le gabaï, le préposé responsable de la synagogue, il dit, bon, tiens, lui, c'est celui de Moshe, je connais, tu peux le prendre. Là, c'est un problème. Vu que Moshe n'est pas là, est-ce que lui, il accepterait vraiment que je fasse maintenant la mitzvah est-ce qu'il accepterait qu'on emprunte maintenant le talit sans son autorisation ? Ce n'est pas clair. Dans cette mesure, on le mettra sans bracha. Parce que ce n'est pas clair qu'il est d'accord. Si le responsable me donne un talit de la synagogue, qui appartient à la synagogue, d'accord, que les gens ont laissé ou ont donné à la synagogue pour faire la mitzvah, ça va. Mais maintenant, il va dans le casier personnel de la personne, il le prend, tiens, il sera d'accord. Idem pour les tefillin, d'accord. Alors, bon, les tefillin, on peut mettre avec bracha un tefillin qui n'est pas le nôtre. Mais le problème aussi d'utilisation maintenant d'un bien qui n'est pas le nôtre. On n'a pas le droit d'utiliser une chose qui n'est pas la nôtre. Donc, on ne pourra pas mettre un talit ou un tefillin qui ne nous appartient pas si on n'a pas la certitude que la personne, elle est d'accord. La halakha disait, dans le Talmud, on dit que oui, qu'on peut. On peut venir dans une synagogue, prendre un talit et un tefillin de quelqu'un, sans poser la question, et le mettre. Pourquoi ? Parce qu'on dit que cette personne est certainement d'accord qu'on fasse la mitzvah avec. Le Ben Ishraï dit oui, mais c'est à condition que la personne est vraiment d'accord. S'il n'est pas d'accord, et aujourd'hui, dit-il, il dit que lui-même, il est comme ça, ça le dérange. Un inconnu qui prend mon tefillin, je l'ai fait faire à 2000 euros chez le super grand sofer, tout ça, super délicat, je fais attention. Lui, c'est un sauvage. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Quelle pensée tordue il peut avoir avec mon tefillin aussi ? Je veux pas. Ça se peut. Donc, aujourd'hui, on n'est plus aussi cool qu'il y a 2000 ans. Et ce n'est pas à chaque juif qui est d'accord qu'on utilise maintenant ses affaires sans autorisation, ça devient du vol. Dans cette mesure, on ne pourra utiliser que si on est certain que la personne est d'accord. Ok, on s'arrête ici. Baruch Adonai, l'homme va amener.